Bonjour et bienvenue sur le podcast En Famille, le podcast de toutes les familles.
Je suis Béatrice Copper-Royer, psychologue clinicienne. Je reçois dans mon cabinet des enfants, des adolescents et leurs familles. Je suis aussi cofondatrice et présidente de l'association e-enfance qui informe et protège les mineurs des dangers potentiels d'Internet. J'ai écrit une dizaine d'essais sur les liens familiaux.
Je suis Marie Guyot, je suis journaliste spécialisée en santé et en psychologie. Dans le cadre de mon métier, j'ai réalisé de nombreux reportages sur les problématiques familiales. C'est d'ailleurs ce qui m'a permis de rencontrer Béatrice. De cette rencontre est née une amitié et l'envie de travailler ensemble, puisque nous avons coécrit 3 livres autour de cette thématique de la famille.
Aujourd'hui, la famille a changé. Elle se sépare, elle se réinvente, elle peut être nucléaire, recomposée, monoparentale, homoparentale. Et de nouvelles questions viennent à se poser.
Dans ce podcast, on se propose d'aborder avec vous les petits soucis et les grands tracas que l'on rencontre dans le cadre de nos relations familiales pour mieux les comprendre et les surmonter.
Ce podcast est rendu possible grâce au soutien de Card, l'application d'argent de poche préférée des familles.
Épisode numéro 2, les colères de l'enfant, quand et comment poser des limites. Alors Béatrice, un bébé pleure beaucoup hein, parce qu'il a faim, parce qu'il a mal aux dents, parce qu'il a mal au ventre. Mais à partir de quel âge est-ce qu'on peut vraiment parler de colère?
Alors on peut commencer à parler de colère vers 18 mois, 2 ans, mais il y a un moment extrêmement fort de colère de l'enfant, c'est vers entre 2 ans et demi et 4 ans et demi, ça décline jusque vers 5 ans. Parce que à ce moment-là, l'enfant est dans une période de toute puissance et il a des scénarios extraordinairement précis sur la façon dont les choses doivent se passer dans sa petite tête. Sauf que dans la réalité, hélas, ça ne se passe pas exactement comme il le voudrait. Et donc, à ce moment-là, il a un sentiment de frustration intense et il peut exploser. Alors, par exemple, c'est les moments où ils ont des petits tocs. Hein. Par exemple, ils veulent mettre leurs chaussettes rouges mais pas leurs chaussettes bleues, ils veulent appuyer sur le bouton de l'ascenseur en premier, ils veulent mettre leur bol à droite et pas à gauche.
Oui, je vois.
Bon, bref, avoir les petits pois dans l'assiette disposés comme ça et pas autrement, bref, des espèces de petites manies qui sont complètement irrationnelles.
Des obsessions un peu.
Des petites obsessions, un TOC c'est un trouble obsessionnel compulsif, ouais. Mais chez eux ça n'a aucune dimension pathologique, hein, rassurons-nous. Mais en revanche, c'est un peu fatigant et déconcertant pour les parents qui doivent là avoir il faut qu'ils naviguent entre souplesse et fermeté. Hein, parce que ces petits tocs, ils n'ont aucune importance et ils vont passer.
Donc c'est normal.
Oui, c'est normal. Il faut être très souple, les anticiper un peu. Et puis voilà. Et puis se dire que s'il ne veut pas mettre sa chaussette rouge, eh ben, ça n'a aucune importance. Et s'il ne veut pas mettre de bouton, il va mettre un t-shirt et on s'en fiche.
Ouais, tu nous donneras après des conseils. Mais pourquoi est-ce que l'enfant passe par cette phase de colère? Comment ça se manifeste?
Bah, ça se manifeste justement par cette toute-puissance, c'est-à-dire c'est ma volonté, je raisonne tout par rapport à moi, mon petit nombril, et donc je voudrais décider de tout. Et il y a chez cet enfant à cet âge-là, aucune empathie, hein. C'est moi. Il est aussi un peu pris dans des sentiments ambivalents et complexes par rapport aux parents, parce que c'est le début de la période d'Ipienne. Ouais. Donc, il est un peu en rivalité avec le parent du même sexe. En même temps, il est très attaché. Enfin, ce sont des sentiments, des émotions complexes qu'il a évidemment beaucoup de mal à comprendre. Et donc, il a un inconfort qui fait qu'il va être vite irritable.
Donc c'est ça en fait, ça sert à ça, cette phase de colère, à s'affirmer et finalement à renoncer à cette toute puissance.
Ça sert effectivement, c'est une étape nécessaire, c'est une étape qui est fatigante mais pas inquiétante, qui doit être bien gérée par les parents le mieux possible, parce que la suite des événements va un peu dépendre de la façon dont ça aura été géré justement. Donc c'est quand même important. Ouais. Oui, ils sont aussi dans un moment où ils sont beaucoup plus autonomes, ne serait-ce que physiquement. Hein. Ils grimpent, ils courent, ils escaladent. Donc ils ont découvert une espèce de liberté qu'ils adorent et ils ont l'impression que le monde est à eux, sauf que le monde n'est pas vraiment à eux parce que justement ils peuvent faire des choses dangereuses, ils peuvent tomber, donc on va forcément leur poser des limites. Ils veulent renverser, verser l'eau eux-mêmes dans leur verre, oui pourquoi pas, mais souvent c'est à côté, donc on a plus ou moins le temps de supporter tout ça. Et donc en fonction des réactions de leurs parents, ils vont exploser ou pas.
Oui, et puis en plus ils sont rentrés à l'école à cet âge-là. Et donc, ils ont quand même pas mal de contraintes.
Oui, c'est à un moment où ils ont beaucoup de choses à faire à la fois.
Ben oui.
Et par exemple, l'enfant de 3 ans qui rentre en première année, on en reparlera peut-être une fois, il va avoir aussi à apprendre la sociabilisation et c'est pas une mince affaire.
Ben oui, oui. Alors, comment est-ce que les parents, justement, peuvent gérer cette phase au mieux ?
Alors, il faut qu'ils naviguent donc entre souplesse et fermeté parce que... En réalité, les crises, on peut en éviter beaucoup en faisant discrétion, c'est-à-dire en ayant recours à l'imaginaire. À ce moment-là, l'enfant, il est dominé par son imaginaire. Ce qui l'enchante, c'est l'imaginaire. Ce qui le frustre, c'est la réalité.
Ouais.
Donc, quand on sent qu'il va commencer à s'énerver parce que justement, il veut mettre son verre à l'endroit et pas à l'envers, il faut tout de suite lui changer les idées, mais pas discuter, rationaliser. La rationalisation, elle n'a rien à faire là. Il faut au contraire avoir une idée, toc, il y a un nuage qui ressemble à un éléphant ou il y a une souris sous le radiateur. N'importe quoi qui va tout d'un coup l'amuser, l'enchanter et faire qu'il va passer à autre chose.
Enfin, faut être en forme hein, quand même, parce que parfois on est speed, il faut partir à l'école et avoir l'idée de l'éléphant dans les nuages au moment de partir à l'école, c'est peut-être pas toujours évident.
Oui, mais alors il y a des parents qui sont plus doués que d'autres pour ça, parce qu'il y a des parents qui ont un imaginaire fourni aussi et d'autres pas du tout. Et alors justement, ce sont les autres qui ont un peu plus de mal, parce que ce sont des gens très rationnels qui se trouvent confrontés à quelque chose de pas du tout rationnel. Et quand ils veulent trop argumenter et pourquoi et comment et qu'est-ce que t'as et qu'est-ce qui se passe, ils n'obtiennent non seulement aucune réponse.
C'est encore pire même.
Ah mais voilà, c'est-à-dire qu'ils
c'est l'escalade.
Ils obtiennent une colère paroxysmique.
Ouais.
Alors, une fois que la colère est commencée, c'est comme l'eau qui bout, elle va se dérouler. Et là encore, inutile de demander le comment du pourquoi, parce qu'au bout de 2 secondes et demie, il ne sait même plus pourquoi il s'est mis en colère comme ça. Donc là, la meilleure façon, c'est de le mettre un peu à l'écart pour pas hystériser un peu ses crises et que tout le monde le regarde, ce qui va finir par lui donner une petite place qu'il va finir par apprécier. Donc plutôt le mettre à l'écart, pas trop longtemps, parce que il est très fatigué et qu'au bout de 5-10 minutes, il a besoin d'un gros câlin et voilà.
Et s'énerver, c'est une bonne solution ou pas?
S'énerver, je dis pas qu'on va jamais s'énerver, que quel est le parent qui s'énerve pas? Mais disons que c'est pas ça qui va arranger les affaires. Hein.
C'est même encore pire, non?
Oui, bien sûr que c'est pire. Okay.
Alors, on parle beaucoup de l'importance de l'autorité parentale. C'est quoi pour toi cette fameuse autorité parentale? Cette fameuse autorité, on va dire.
Alors, l'autorité, c'est certainement pas l'autoritarisme d'antan. Hein. C'est certainement pas asséner des règles sans les expliquer avec force et voire violence. Évidemment que ce n'est pas ça. Mais l'autorité, c'est avoir de la conviction, de la détermination et de la cohérence.
Et du calme un peu ?
La détermination, la conviction et la cohérence, ça se fait dans le calme.
En général.
Ce n'est pas dans l'excitation. Et je pense que l'enfant doit comprendre à ce moment-là que c'est l'adulte, c'est le parent qui tient le guidon et que c'est pas lui.
Ouais.
Et ça demande quelques stratégies. C'est-à-dire, admettons, vous voulez que votre petit garçon ou votre petite fille de 3 ou 4 ans doive aller prendre sa douche. Vous pensez que c'est le moment d'aller prendre sa douche.
Ouais.
Si vous lui dites, Iris, s'il te plaît, ma chérie, est-ce que tu peux venir prendre ta douche ? Ça ne va pas marcher, hein, parce que Iris, elle va continuer à jouer dans sa chambre.
À la poupée,
ce qu'elle veut.
Autre chose, ouais.
En tous les cas, ça ne va pas marcher. Donc, si vous voulez que ça ne prenne pas trop de temps, vous approchez d'Iris et vous lui dites, Iris, s'il te plaît, regarde-moi, c'est le moment de prendre ta douche. Et à ce moment-là, en lui prenant bien le regard, en la regardant bien dans les yeux, votre injonction ferme et déterminée, elle va être entendue.
Ouais.
Et donc, on gagne du temps et on gagne de l'énergie.
D'accord. Alors, pourquoi est-ce que c'est important de poser des limites assez tôt, finalement ?
Parce que l'enfant, pour grandir, il a besoin de se structurer et les limites, ça structure. C'est-à-dire que évidemment que l'enfant qui n'aura pas de limite, il va avoir le sentiment dans un premier temps que c'est la victoire. Mmh. Hein, mais la victoire, ce n'est pas du tout une victoire rassurante parce qu'à ce moment-là, il a l'impression qu'il n'est pas protégé par ses parents. Qu'il a face à lui des parents qui sont indécis, qui ne savent pas très bien justement quoi faire de lui. Et donc, cette victoire, elle va avoir un goût amer. Elle va avoir aussi le goût de la culpabilité. Donc, il va se culpabiliser de les avoir contrariés, ouais. D'avoir obtenu ce qu'il voulait. Et donc, la culpabilité, elle va créer de l'anxiété. Donc, on rentre dans un cercle vicieux. Et donc, oui, c'est vrai que les enfants ont besoin de limites. Alors, il faut choisir ses combats. Hein. Ils n'ont pas besoin... ce n'est pas des robots. Hein. Mais il y a quelques règles de vie familiale qu'il faut arriver à faire respecter. Et après, chacun a aussi ses priorités. Je crois qu'il faut choisir ses priorités. Ouais. Et puis, quand on a choisi ses priorités, eh ben, on les fait respecter.
Et si on ne le fait pas suffisamment tôt, après, ça risque de donner un adulte colérique ?
Ça risque de donner un enfant tyran, surtout. Hein, ouais. Un enfant tyran. Puis l'enfant, on ne lui rend pas service non plus parce qu'il est peu exportable. Avec ses amis à l'extérieur, il va vouloir un peu répéter, c'est-à-dire décider de tout. Et il va se confronter aux autres qui ne sont pas du tout d'accord et qui ne sont pas ses parents et qui ne vont pas se laisser faire. Donc, il risque aussi, finalement, d'avoir des difficultés à l'extérieur. Et donc, c'est dommage pour lui. Mmh.
Et puis en plus, les colères de l'enfant, c'est stressant pour tout le monde. De quelle manière est-ce que ça peut rejaillir sur la famille en général ?
Alors, quand il y a un enfant qui est très difficile et que tout le monde, qui est très difficile, qui est dans cette phase comme ça de grande colère, c'est vrai que, par exemple, les aînés peuvent trouver qu'il prend beaucoup de place et que c'est fatigant. Alors, c'est vrai que plus les parents seront pas dépassés par la situation, plus ils seront cohérents, plus ils mettront des limites, plus ils auront aussi cette souplesse qu'il faut avoir quand même dans ces moments-là. Moi, on en parlera en famille. Mais oui, c'est vrai que ça peut avoir un retentissement. Parce
pour
que
le couple aussi
Pour le couple, c'est un retentissement si le couple, et c'est vrai que c'est quand même assez fréquent, tu as raison de le rappeler, on n'est pas toujours d'accord au niveau de l'autorité. Hein. Mmh. On n'a pas la même éducation, on n'a pas les mêmes références éducatives, donc on a l'impression que ce sont les propres règles qu'on a reçues qu'il faut appliquer à ses enfants. Ou bien qu'il faut tout à fait faire le contraire. Hein. Donc oui, ça demande d'en discuter parce que l'enfant, il va très vite sentir qu'il y a des failles, que les parents se contredisent. Mmh. Et là, c'est une formidable occasion pour lui de tirer l'épingle du jeu et de manifester sa toute-puissance. Il ne faut surtout pas lui laisser cette possibilité-là.
D'accord. Alors, quels sont les messages importants que tu souhaites faire passer à tous les parents dont les enfants font des colères ?
Alors, leur dire « rassurez-vous, ça ne durera pas ». Donc ça, et ça ne durera pas si vous savez les gérer. Ouais. Et pour les gérer, il faut que vous naviguiez entre souplesse et fermeté. Se dire que le recours à l'imaginaire pour changer les idées peut en désamorcer vraiment beaucoup. Mmh. Qu'une fois que la crise est démarrée, eh bien, ma foi, il faut juste le mettre à l'écart quelques temps et ensuite le réconforter parce qu'il est très fatigué. Ouais. Et éviter les rationalisations, les questionnements directs qui ne servent à rien. Ouais. Ensuite, dernière chose, quand on pose une limite, il faut la poser avec détermination, avec conviction et avec cohérence. Mmh.
D'accord. Bah déjà savoir
et
que
persévérance.
Ouais. Déjà savoir que ça n'est qu'une période de la vie, pas toujours facile pour les parents, c'est une bonne chose, c'est assez rassurant. Merci Béatrice. On se retrouve pour un prochain épisode d'En Famille, le podcast de toutes les familles.
Merci Marie.
Ce podcast est rendu possible grâce au soutien de Card, l'application d'argent de poche préférée des familles. Une carte et un compte ado pour apprendre la gestion et la valeur de l'argent. Une app par an pour superviser et l'accompagner en toute sécurité.